Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous saluons aussi l'Église connectée et sans plus attendre, louons le Seigneur.
Une fois de plus souhaiter la bienvenue à notre Dieu. dont nous allons entrer dans ces pavis avec joie, avec des cris de louange, quoi. Donc nous allons louer le Seigneur là maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut taper dans les mains? À l'honneur de notre Dieu qui règne à jamais, entrons dans ses portes avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds déposons nos fardeaux, il nous donne sa paix. Tous en cœur, approchons-nous de son trône avec repentance. Considérons l'amour de Dieu, grand et glorieux. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Souveraine, que ta puissance et ta sainte esprit resplendissent dans ce lieu. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Toi, le sujet de notre joie. Gloire à toi, Seigneur. Nous chantons à la gloire de ton nom, du ressuscité. Toi, le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons à la gloire de ton nom, du ressuscité. Toi le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Déclaration. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous allons une fois de plus invoquer le nom de Jésus, ce nom majestueux, ce nom doux comme un parfum. Amen. Oh,
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. aucun nom n'est comme le sien.
C'est le nom de Jésus, le plus beau de tous les noms. Et c'est sur Jésus que nous bâtissons notre vie. Il est la pierre angulaire. C'est cette pierre stable, le roc, le rocher sur lequel nous avons décidé de bâtir notre vie.
Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.
J'ancrerai est venu sur cette terre. Il est mort, mais plus encore, il est ressuscité. C'est cette résurrection, parce que son sang a coulé, que Jésus nous confère une victoire. Et cette victoire, nous la lui devons. En réponse à cette victoire, en réponse à ce sacrifice, bâtissons notre vie sur lui. Seuls, nous ne pouvons rien. Alors Jésus, ensemble, on veut déclarer encore, exprimer notre dépendance. Nous avons besoin de toi. On va reprendre encore une dernière fois. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas.
Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement
inébranlable et j'ancrerai. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi? Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus. J'aimerais qu'on puisse tous ensemble élever le nom de Jésus par une acclamation. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour qui il est ? Alléluia.
Majesté, majesté.
accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté.
Un instant, juste être dans le recueillement, rester debout à notre place, avec ce chant qui nous appelle à reconnaître la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. Nous sommes en train d'élever le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a exercé une grâce envers chacune et chacun d'entre nous. Personne n'était digne d'être dans la présence de Dieu, et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes dans la présence de Dieu. Alors juste avant qu'on puisse finir ces temps d'adoration, de louange, en priant collectivement ensemble, cette maison va dans un instant être une maison de prière où toute personne de toute nation, de toute tribu va élever le nom de Jésus. Juste un instant, prenons juste quelques temps, juste pour se remémorer qui est Jésus pour nous en recueillement. Alors que voilà, les instruments continuent tranquillement. Entrez en vous-même et réalisez qui est Jésus pour vous. Pour certains, c'est le Sauveur. Pour d'autres, c'est non seulement le Sauveur, mais aussi celui qui guérit, celui qui pourvoit. Prends le temps un instant avant qu'on élève nos voix en prière tous, de dire, mon âme, je veux être focus sur la personne du Christ. Si nous sommes là, c'est pour Jésus avant tout. Vous qui êtes en ligne aussi, si vous le pouvez, réfléchissez à la personne du Christ, qui il est pour vous. Le roi majestueux, le Seigneur des seigneurs, la boussole de votre vie, le maître. Celui qui réconcilie, celui qui restaure. Celui qui vous a libéré des esprits méchants qui vous tenaient liés. Le libérateur. Ce matin, est-ce qu'il est possible, alors que le monde est en fusion, qu'il y ait une église qui élève ensemble sa voix pour élever un seul nom? Alors pour qu'on soit en harmonie, synchronisés les uns avec les autres, je vais vous inviter à pouvoir... Au bout de trois, commencez à prier à votre place en élevant des mains et en disant tout votre amour à Jésus. et nous serons ainsi en harmonie ensemble. Mais que cette maison soit une maison de prière. 1. Jésus est le Seigneur de ta vie. 2. Jésus est le Sauveur de ta vie. 3. Adorons Jésus ensemble maintenant. Élève ta voix, laisse le ciel entendre ta voix. Avec tes mots, avec ton cœur. Église, je ne t'entends pas prier, j'ai besoin d'entendre l'Église élever sa voix. À ta place, tu peux maintenant, bien sûr, tu es libre hein, de le faire ou pas. Mais s'il y en a de ceux qui sont à l'aise, élève ta voix maintenant. Ma maison sera appelée une maison de prière. Les nations adoreront l'Éternel, les nations célébreront Jésus. Est-ce qu'il y a une église qui est en prière maintenant? Seigneur, nous élevons ton nom, nous élevons ta personne. Nous sommes une église qui veut prier, élever le nom de Jésus ce matin. Oui Seigneur, nous sommes parfaitement imparfaits. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais ce matin nous nous unissons en prière pour te dire que tu es majestueux. Jésus, sois élevé. Dis-le à ton Seigneur. Jésus, sois élevé. Jésus, libère. Jésus, pardonne. Jésus, sauve. Jésus, je t'aime. Jésus, pardonne-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sois élevé ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé à l'église de l'Épi. Église de l'Épi, ton Seigneur attend ta prière. Le Seigneur veut que tu puisses prier ce matin de manière collective en adorant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui t'a aimé, celui qui a tout donné pour toi. Oui, tu peux lui dire merci. Oui, tu peux le supplier. Oui, tu peux l'adorer. Oui, tu peux t'abandonner dans sa présence. Tu peux disposer ton cœur. Jésus, sois élevé dans ce lieu. Sois élevé dans ce lieu. Prions ensemble, majesté, ensemble, majesté.
Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix.
Majesté.
Majesté. Majesté, majesté, dans ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté,
majesté. Cette prière au Seigneur ce matin.
Majesté,
ta grâce.
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix.
Majesté. Un peuple qui veut acclamer encore Jésus dans ce lieu, lui dire toute la gloire. À lui soit toute la gloire. L'homme que je suis, le père que je suis, l'époux que je suis, veut remercier les 100% d'hommes sur cette estrade qui ont servi Dieu ce matin et qui vous ont servi. Est-ce qu'on peut encore les encourager? Franchement, ils ont travaillé. Il y a des heures de répétition derrière. Il y a de la prière. Et merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les louangistes à l'Épi qui, dimanche après dimanche, se donnent en répétition. Vous ne les voyez pas, mais chaque semaine, ils prient pour vous, ils répètent et ils se donnent vraiment pour qu'on puisse vivre une harmonie de louanges le dimanche matin ensemble. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous vous êtes assis beaucoup plus vite que je n'ai pu l'anticiper. Et je voulais en fait finir en disant, est-ce qu'on pourrait donner une dernière acte d'adoration à Dieu en obéissant à un de ses commandements qui est de se saluer les uns les autres. Est-ce qu'on peut juste donner un petit coup de coude, un petit check de dire bienvenue? Vraiment. Accueillons-nous, la Bible dit, les uns les autres. Et oui, accueillir l'autre au nom du Seigneur Jésus. On est heureux de vous accueillir, on est heureux de vous accueillir, vous aussi qui êtes en ligne ce matin. Il y a des visiteurs, des amis qui aussi nous visitent, on va pas vous mettre mal à l'aise. On veut juste vous souhaiter la bienvenue, vous allez vous reconnaître parce que vous n'êtes pas habitué à vivre l'église de manière régulière. Église de l'Épi, on va pas les mettre mal à l'aise, mais est-ce qu'ils peuvent se mettre debout les visiteurs ce matin? Ceux qui nous visitent pour une fois ou deux, allez s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Je sais qu'il y en a au moins deux. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue? Bienvenue à l'église de l'Épi. Bienvenue à vous. Il y en a même qui viennent de Mayotte. Que Dieu bénisse les Maorés. Hein? Amen, amen. De toute façon, la Bible dit pas, mais les îles de l'océan Indien, Dieu dit, ah, mais quand je veux me reposer, je vais dans l'océan Indien et je me repose. On a quelques événements qui vont vivre et qui vont venir ponctuer notre vie d'église dans la prière et dans le jeûne. On vous l'a dit depuis un certain temps, on espère que vous arrivez à ouvrir vos agendas électroniques ou papier. Il y a une session de jeûne et de prière qui arrive du 6 au 10 novembre. Un temps où chaque soirée sera dédiée à chercher Dieu, la présence de Dieu, prier pour des besoins, la notion du combat spirituel. Et on sera encore dans notre série sur les dons spirituels, se mettre à l'écoute et au service de Dieu au travers d'une vie remplie de l'Esprit, une vie où le Saint-Esprit œuvre au travers de nous chaque soir, louange, prière, intercession, temps de témoignage aussi, vraiment des temps forts où on peut s'édifier. N'hésitez pas à bloquer une ou plusieurs soirées dans votre agenda, ne manquez pas ça. On clôturera cette session de jeûne et de prière avec un temps de louange, une soirée full louange où on sera en nouvelle fois dans la présence de Dieu à célébrer le Seigneur par des cantiques, par des chants. Et on sera vraiment heureux de pouvoir vous accueillir, s'accueillir mutuellement pour vivre ces temps-là. Juste pour savoir, qui était là lors de la soirée louange de la dernière fois? Juste lever la main. Qui croit que c'est important de venir adorer et célébrer Jésus ensemble? Levez la main juste pour voir. Selon vos dispos, on ne force personne, mais venez nous rejoindre pour un temps de célébration et de louange. On a aussi, et l'Épi, on aime vivre des temps de formation par rapport à la Bible, des temps forts où la Bible vient nous nourrir, et on a un parcours qui s'appelle Instay. Je vais laisser la place à Raymond Pierre, qui fait partie de l'équipe pastorale, qui va nous parler rapidement un peu d'Instay pour les personnes nouvelles qui seraient là, et ce qu'on s'apprête à vivre maintenant. Merci beaucoup.
Voilà, bonjour à tous. Comme l'a dit Mathieu, depuis 6 ans, nous avons lancé le cours Instay. Instay, c'est quoi? L'Institut de théologie par extension. C'est pas vous qui allez à l'école biblique, c'est l'école biblique qui vient à vous. Et j'ai la joie aujourd'hui de célébrer les finissants de la 3e promotion. Et je vais les inviter à venir. Yves, son épouse Gabrielle, Doris. Est-ce qu'ils sont là? Oui, il y a Yves qui arrive. Il y a Pascal aussi. Et Marie-Claire Mitte. Si vous êtes là, il en manque 3. Anne, notre assistante pastorale, est en vacances. Et puis, on a notre regretté Pierre Samuel qui est parti pour d'autres cieux en allant à Bourgoin-Jallieu, qui a fini. Et puis, il manque aussi une sœur qui a été absente aujourd'hui. On aimerait les honorer. Ça fait 4 ans qu'ils ont consacré du temps, qu'ils ont consacré du temps à étudier la parole de Dieu. Mais pas simplement pour nourrir une foi intellectuelle, mais pour la vivre en communauté. Et c'est le principe d'Instay, c'est que oui, il y a une étude personnelle durant la semaine, mais il y a des rencontres où chacun vient partager ce qu'il a reçu de son étude, et finalement, ce que les uns et les autres ont découvert vient alimenter la foi des autres. Donc, on est actuellement à la 4e et la 5e promotion qui continue de tourner, mais vous, après 4 ans, on voulait vous honorer, et on voulait juste laisser la parole à 2 personnes, il y a Pascal et Yves qui vont être les porte-parole des 2 groupes qui ont tourné simultanément pour dire, témoigner de ce que, en quelques mots, de ce que Instay leur a apporté. Pascal?
Alors, je réfléchis à ce que je pourrais dire, parce que j'ai hésité après chaque année de poursuivre, et puis finalement, j'ai poursuivi les 4 ans. Et je vais le comparer à quelque chose. On dit que Jésus dit qu'il est le pain de vie. Après coup, je me rends compte que ça a été comme un bon repas complet, avec apéritif, entrée, plat de résistance et dessert. Ça m'a nourri, ça m'a réjoui, et surtout, j'ai découvert l'autre qui nous a invités à ce repas. et que j'ai envie de connaître de plus en plus. Et puis c'est bien connu qu'on connaît le mieux les personnes quand on est face à face, à partager un petit repas avec. Donc je vous invite à venir au repas aussi, c'est formidable, la parole est puissante. Voilà, c'est un pain puissant.
Merci Pascal. Yves, je te donne le micro.
Bonjour à tous et toutes. Alors, en fait, pour paraphraser peut-être une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, il a dit « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin ben », nous, on a persévéré jusqu'à la fin pour obtenir le diplôme d'INSTE. Il y a dans INSTE différentes phases, donc 4 années, effectivement. Alors, ça peut paraître long, mais c'est tous les 15 jours, c'est étalé sur 30 semaines, et c'est gérable. Il y a à la fois des études pratiques sur, par exemple, la prière, sur les études bibliques, et aussi des études fondamentales sur la doctrine fondamentale, sur l'Église, sur le salut, sur le Saint-Esprit. Ce qui a été particulièrement nouveau pour moi, ça a été l'étude de l'Ancien Testament. Alors l'Ancien Testament, dans son agencement historique et spirituel, ça a été fantastique. Si vraiment vous voulez comprendre l'Ancien Testament, la formation INSTE, c'est pour vous aussi. Et ensuite, on a terminé par le Nouveau Testament. Alors là, avec donc cette révélation de Jésus-Christ au monde et ces écrits des apôtres, on les a étudiés. C'est vraiment un travail, un sujet de reconnaissance. Et alors, il y a eu des bonus, comme Raymond Pierre l'a dit, les partages en groupe. Les partages en groupe au moment de l'étude, ça, c'était très enrichissant également. Un autre petit bonus, ce sont les versets mémorisés. Ça fait partie, quelque part, de l'examen, mais c'est vraiment très, très riche également. Et puis pour nous, peut-être, pour Gabriel et moi, on a pu expérimenter aussi ce que INSTE appelle les compagnons de croissance. Alors si vous pouvez réaliser INSTE en couple, ça sera une bénédiction supplémentaire. Voilà. Merci.
Merci à vous deux d'avoir été les porte-parole. Merci Yves de nous avoir rappelé que l'Ancien Testament, c'est l'Évangile en bourgeon, et puis que le Nouveau Testament, c'est l'Évangile en fleur. Merci. Je vais demander au pasteur principal, Mathieu Thomas, si tu veux bien remettre le diplôme à nos frères et nos sœurs.
La pression est sur mes épaules, parce que du coup, si je ne connais pas les prénoms, c'est un problème.
Exactement, mais tu devrais y arriver.
Marie Clermite. Oui, ça, c'est bon. Pascal Guillaume. Chantal, c'est bon. Doris, c'est bon. Gabriel, ah oui, c'est bon. Et Yves.
Mathieu, tu veux bien prier pour eux ? Merci.
Dédier son temps, Seigneur, à étudier ta parole, alors qu'il y a la vie, il y a la gestion de la famille, il y a le travail. On veut te remercier parce que toi, le grand gestionnaire, tu as aidé chacune et chacun à bien gérer son agenda pour arriver jusque-là. Merci pour toute l'énergie, merci parce que les disciples de Jésus pour lesquels nous prions repartent de ce temps de parcours, de formation avec des ressources, des pépites, du contenu, une fondation. On te prie que toutes ces études puissent servir à continuer de grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, dans la connaissance du Christ. On te prie aussi que ce rayonnement intérieur qu'ils ont vécu, ils puissent aussi rayonner dans leur quartier, dans leur famille, comme Yves l'a dit aussi, dans les foyers, dans les couples. On te prie vraiment, Seigneur, pour que cette nourriture nourrisse leur âme et qu'ils puissent aussi, comme tu l'as dit un jour, donner-leur vous-même à manger, qu'ils puissent aussi partager ce pain avec d'autres. On te prie pour tous les étudiants INSTE actuellement à l'EPI. On te prie vraiment pour une génération qui aime ta parole, qui se nourrisse de ta parole. Tu vois, tous les défis qui sont liés à la méditation de ta parole. Alors merci pour ce cycle qui se termine là, mais on sait qu'il y a toujours un nouveau chapitre avec toi, Seigneur. À toi toute la gloire, pour ta fidélité, pour leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans un instant, nous allons pouvoir écouter le pasteur Stephen Hillard, qui nous vient du Québec, mais c'est un faux Québécois parce qu'il est bien de la France, c'est un vrai Gaulois comme on les aime. Mais juste avant, quelques petites informations de Vivre Ensemble pour qu'on puisse bien comprendre et être à un même niveau d'information. Vous avez vu ce matin toute une équipe d'accueil qui, dimanche après dimanche, va vous accueillir comme s'ils accueillaient le Seigneur, avec un cœur énorme comme ça. On est dans un contexte un peu particulier où il nous faut mettre en place un certain nombre de choses pour la sécurité du public, pour de la dissuasion aussi. Je vous demande vraiment d'être aimable avec les personnes de l'accueil quand elles vous demandent peut-être de suivre une consigne ou autre. C'est un témoignage pour même les dizaines de personnes qui nous ont visités ce matin. Donc merci vraiment d'être aimable avec toute l'équipe d'accueil qui vraiment prie pour vous. Pareil pour le parking, on vous demande de vraiment de faire attention les demi-tours ou autres, respectez bien le dépose minute ou autre. Et pareil pour la salle qui est fermée jusqu'à 45 ici, c'est pour des raisons aussi, il y a des gens qui travaillent, qui sont en train de pratiquer, qui sont en train de préparer des choses ici, et parfois on peut être perturbé par le fait que les gens ils arrivent. Donc vous avez dans le hall d'accueil des fauteuils, vous avez des sièges, vous avez des bancs, vous avez de quoi aussi passer un temps autour d'un café pour vivre de la koinonia avec les gens. Donc merci de respecter cette approche-là à 45, on ouvre et on peut venir ici. Vous avez vu, de plus en plus, on prie avant les célébrations ou autre, mais merci de vraiment respecter le service d'accueil. Ils font ça vraiment pour vous servir. Alors juste avant, je voudrais qu'on puisse les encourager et les applaudir pour tout le travail qu'ils font, s'il vous plaît. À la fin de cette célébration, il y a un temps d'espace écoute et prière près du piano à queue. Vous avez été remué par le message que Stéphane va apporter dans un instant. La louange est venue vous travailler. Vous avez vécu ou vous allez vivre dans la semaine quelque chose de fort avec Dieu. Vous avez des équipiers de prière qui vont être là avec vous à la fin tout de suite de la célébration dans cet espace qu'on appelle l'espace piano. Désolé, il va falloir que tu me suives avec le son. Et l'espace piano à queue. Ce qui veut dire qu'il faut que cette zone-là, après la célébration, puisse être dégagée. Vous pouvez vous rendre plus vers le côté de votre gauche pour continuer à discuter. Vous pouvez aller dans le hall, il y a encore du café. Mais on vous demandera vraiment de bien vouloir, rapidement après la célébration, quitter cette zone-là où des gens vont être dans un espace d'écoute et de prière par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qui les a impactés. On vous demande vraiment aussi de respecter le service d'accueil qui va venir vous voir pour vous demander « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous décaler un petit peu plus sur la droite ?» Parce que là, il y a des gens qui vont être impactés, touchés par ce temps de prière. Donc à la fin, si vous avez besoin d'un temps d'écoute et de prière, s'il vous plaît, n'hésitez pas. L'épi est pleinement elle-même quand elle peut accompagner en écoute et en prière les personnes qui en ressentent et qui en ont le besoin. Est-ce que je peux entendre un grand amen à ça? Ça va? Donc ça va être comme ça à chaque célébration maintenant. Écoute et prière sur la gauche ici. Donc un grand merci. On va accueillir Stéphane Hillard maintenant. On peut l'accueillir bien comme il se doit, à la française. Je vais laisser se présenter. Par contre, on va prier pour lui. On aime le faire. On aime vraiment prier les uns pour les autres. Après quoi, on va être nourri aussi dans notre foi. Bienvenue en tout cas, Stéphane. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour l'occasion que nous avons de pouvoir prendre un temps vraiment autour de ta parole, autour de ce que tu veux nous communiquer, comment tu veux venir nous défier ce matin. Merci de bénir abondamment Stéphane, son épouse aussi, leur ministère, leur église locale. Merci vraiment de l'accompagner dans tout ce qui va être vécu maintenant. Et Saint-Esprit, nous avons vraiment, et nous te le disons avec humilité, nous avons besoin que tu continues ton œuvre en nous et par nous. Dans le nom de Jésus, amen. Je te laisse te présenter et tout, il n'y a pas de...
Yes. Bonjour Église de l'Épi, ça va bien? Oui? Vous êtes sûr? Ce côté, ça va? Ce côté?
Oui.
Ah, ils ont l'air plus en forme ici. Ça va bien ce côté?
Oui.
Ah, et ici?
Vous
voyez la concurrence dans l'église, c'est triste hein, quand même. Très heureux d'être là, d'être avec vous ce matin pour partager la parole. Je tiens à remercier l'équipe pastorale de l'église de l'Épi. Vous avez une équipe pastorale incroyable. Et je dois dire qu'il y a un lien d'amitié qui s'est forgé, qui s'est créé. Et j'aimerais vous dire, je vous aime. Et par extension, je vous aime. Il y a un vrai lien d'amitié qui est là, qui a été créé tellement... que je vois plus votre équipe pastorale que ma propre famille. Sincèrement, réellement. Ce qui fait qu'ici, je suis à la maison. J'aime ça être ici, j'aime être avec vous. Et c'était un plaisir aussi d'être là. Hier, il y avait la conférence Ironman pour les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui étaient à Ironman hier? Parfait. Excellent. Moi, j'ai aimé ça. C'était bon, on était entre gars, ça, on discutait. Et juste faire réunir des gars pour qu'ils parlent entre eux, c'est compliqué. Mais on a réussi, on a été là, et Dieu a agi. Et je crois que Dieu va encore agir ce matin. Amen. Excellent. Très heureux vraiment de pouvoir partager ici. Et la dernière fois, j'étais venu il y a 6-7 mois à peu près. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Si vous en rappelez pas, c'est pas grave. J'ai un message pour vous ce matin et je crois que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous toucher. Vous êtes dans une série sur les dons de l'esprit et quelque part, ce message-là, ça serait sur le don de foi. Le don de foi. Ça sera pas particulièrement là-dessus, mais je crois que ça va dans votre thématique en ce moment. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, ça va bien. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal avec les yeux, qui ont des problèmes de vue ici? Qui porte des lunettes? Qui... Je ne sais pas pourquoi on rit. Non, qui porte des lunettes? Parfait. Et le défi avec ceux qui portent des lunettes, souvent, c'est de trouver leurs lunettes et de savoir où est-ce qu'ils les ont mises pour finalement réaliser qu'elles étaient sur votre tête. Alors bien sûr, moi, je ne vis pas ça vu que je ne porte pas de lunettes. Pas encore. Mais le titre de mon message ce matin, c'est « Que vois-tu ?» Que vois-tu? Que voyez-vous? Que vois-tu? Et on va faire un test ce matin pour savoir si on voit tous la même chose. Que voyez-vous sur cette image? Un titre. C'était pour savoir si vous suiviez. Maintenant, on va voir si le PowerPoint suit. Que voyez-vous sur l'image qui suit? Qui voit un lapin? Qui voit un canard? Il y a beaucoup de canards ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de canards. Qui voit les deux? Et j'aime bien parce qu'il y en a, ils se disent, non, moi j'avais vu les deux, je veux juste dire que je suis intelligent, ok? Moi je voyais et le lapin et le canard. Moi je vois le lapin, je vois le canard, je vois tout ce qu'il y a à voir, tout ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on voit deux choses différentes et on est tous d'accord qu'on voit la même chose. Pourtant, notre interprétation n'est pas la même. Et c'est pour ça souvent que la police, quand il y a... Enfin, je dis ça sous couvert de Raymond Pierre. Et c'est pour ça que la police, en général, ils font appel à plusieurs témoins parce qu'ils ont tous vu la même chose, mais d'un angle différent, d'un point de vue différent. Et ça se peut qu'on puisse recouper pour voir ce qui a été dit. Et le défi, des fois, dans ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à juger. On juge les autres, sur ce qu'ils vivent, ou en tout cas de ce qu'on croit voir. On voit une situation et on a tendance à juger. Et les chrétiens, on n'est pas si mal pour ça. Tu sais, on sait juger, on sait bien juger, vraiment. On aimerait ne pas le faire, mais on le fait. Et j'aimerais qu'on puisse voir l'autre image pour savoir ce que vous voyez. Alors il y a écrit sur le dessin « Quand je vais grandir, j'aimerais devenir comme maman. » Et je sens que j'ai perdu les trois quarts de l'église ce matin avec ce dessin-là. C'était un plaisir d'être venu à l'EPI, vraiment. Merci de m'avoir invité, je ne reviendrai pas ici. Et je sais que vous êtes tous, et la plupart, être en train de me juger en ce moment sur quel est ce dessin. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire en arrière de ça. En fait, ce dessin a été fait par une petite fille qui a été remise à sa professeure pour savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Et elle a dit, moi j'aimerais faire comme maman plus tard. Et la maman a reçu un email avec la photo de ce dessin. Et la mère a senti le besoin de se justifier. Et l'histoire raconte qu'elle a envoyé une lettre à la professeure. Et ça va comme suit. « Chère Madame Jones, je tiens à préciser que je ne suis pas maintenant et je n'ai jamais été une danseuse exotique. » Je travaille chez Home Depot, chez Castorama. Et j'ai dit à ma fille à quel point c'était mouvementé la semaine dernière avant le blizzard. Je lui ai dit que nous avions vendu toutes les pelles que nous avions. Puis, j'en ai trouvé une de plus dans l'arrière-boutique. Et que plusieurs personnes se battaient pour savoir qui l'aurait. Sa photo ne me montre pas en train de danser autour d'un poteau. C'est censé me représenter en train de vendre la dernière pelle à neige que nous avions chez Home Depot. Et pour tous ceux qui m'ont jugé, repentez-vous. Tout ça pour dire qu'on peut voir la même chose et on peut tous regarder la même chose et pourtant voir deux choses différentes. avoir deux regards différents sur une situation. Et toute ressemblance avec une situation dans votre couple est totalement fortuite. Et j'aimerais vous parler d'un passage dans la Bible où la façon de voir des personnes impliquées a changé non seulement leur destinée personnelle, mais aussi la destinée de tout un peuple. Et d'un peuple entier, carrément. On se retrouve au moment où Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il le libère, et Dieu fait des choses extraordinaires avec son peuple, et ils vont dans le désert. Et Dieu fait des miracles extraordinaires. Il ouvre la mer en deux, le miracle de la mer rouge, il passe au travers, la mer se referme, et ils sont libres. Et ensuite, vu qu'il n'y a rien dans le désert pour manger, que fait Dieu ? Il fait le miracle de la manne, il leur donne à manger, c'est incroyable. Et combien croient que ce serait bon une manne 2.0 vu l'inflation en ce moment ? Et Dieu fait des choses extraordinaires avec son peuple. Et finalement, après environ un an de pérégrination dans le désert, ils arrivent à la porte du pays promis, du pays de Canaan. Ils sont à la frontière de la terre promise. Et on se retrouve dans le livre que vous lisez le plus après les psaumes et les proverbes, le livre des Nombres. Au chapitre 13, dans lequel Moïse, à la demande de Dieu, envoie 12 espions pour explorer la région et pouvoir explorer ce qui se fait, ce qu'il y a, et juste saisir et rapporter des informations sur la terre, sur ses habitants et sur ses ressources. Et après 40 jours, les espions reviennent pour faire un rapport complet à Moïse. Et ça va comme suit dans Nombre 13. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais, toujours quelque chose à dire. » Toujours quelque chose à... Ah oui, c'est bien, mais... Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. En gros, c'est super, mais ça va être compliqué. Seigneur, tu as des bonnes choses pour nous, mais... Pas sûr. On va peut-être rester là où on est. C'est incroyable... Dieu t'a fait quelque chose d'incroyable, mais, je me demande des fois si le peuple d'Israël n'était pas un peu français. Je suis français, je précise. Je m'inclus. C'est super, mais ça va être compliqué. Et ils se plaignent. Et la suite nous dit, dans Nombre 13:30, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qu'il y avait accompagnés dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et c'est fou comment quand il y a des choses qui ne font pas notre affaire dans notre vie, dans notre foi, on commence à dénigrer. Quand Dieu a des choses pour nous mais que les choses ne se passent pas comme prévu, on commence à diminuer ce que Dieu nous a peut-être dit. On commence à mettre de côté les choses que Dieu avait pour nous et on se dit « Ah non, c'est pas pour nous. » Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'arrive. Je le confesse. Et ce qui est fou à ce moment-là, c'est qu'ils partent à combien pour explorer ? C'est rien qu'ils savent ? Ils partent à 12. Ils partent à 12 espions. Et ce qui est fou, c'est que sur les 12 espions, dans le rapport, 2 sont positifs et 10 sont négatifs. 2 sont positifs et 10 sont négatifs. Et j'aimerais vous laisser avec cette idée que la majorité n'équivaut pas à la vérité. La majorité n'équivaut pas à la vérité. N'est pas forcément en accord non plus avec la volonté de Dieu. Si c'était aligné à la majorité, Noé n'aurait pas construit le bateau. Si c'était aligné à la majorité, David n'aurait pas combattu Goliath. Non, reste ici. Non, il est trop fort. Reste avec nous parce que... S'il s'était aligné à la majorité, Jésus ne serait pas allé à la croix. Parce que les disciples voulaient le garder avec eux. Ils disent non, reste avec nous, on va faire quelque chose d'incroyable, on va monter un royaume, ça va être incroyable. Si je m'étais aligné à la majorité, je ne serais pas devenu chrétien et je ne serais pas devenu pasteur. Si vous vous étiez aligné à la majorité ce matin, vous seriez chez vous en train de manger un bon croissant. Mais vous avez décidé, vous avez pris la décision de venir ici pour louer, adorer le Seigneur, et vous pouvez vous applaudir et dire « Seigneur, je suis là pour toi, merci pour ce que tu as fait pour moi ». Mais la majorité n'équivaut pas à la vérité. Ma question, c'est que disent les gens sur ta situation ? Souvent, quand on vit des choses avec Dieu, ce qui arrive, c'est qu'on va en parler aux gens autour de nous. « Je vis ça, qu'est-ce que tu en penses ? Je vis ça dans mon couple, je vis ça à mon travail, je vis ça avec le pasteur. » Qu'est-ce que tu en penses ? Et souvent, on va vers les gens pour avoir ce que nous, on veut entendre. Et on va voir les personnes dont on sait qu'ils diront ou qu'ils penseront la même chose que nous. Tu penses que je devrais faire ça ? Ouais, hein, moi, je pense que... Et souvent, on va demander conseil aux gens qui sont autour de nous, même des gens spirituels. Mais la dernière chose qu'on fait, c'est d'aller demander à Dieu, « Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Que dit Dieu sur ta situation ?» Dieu avait dit « Je vous donnerai le pays promis ». Et il y en a 10 qui disent « Ah, c'est bien, mais pas sûr, pas sûr ». Que disent les gens ? Mais que dit Dieu sur ta situation ? Parce que souvent, on écoute les gens qui nous donnent ce qu'on veut entendre. Des conseils qui nous laissent aussi dans le confort et la sécurité de notre situation. Saupoudrés d'une certaine sagesse biblique avec quelques versets. Et on va chercher les versets qui nous intéressent pour appuyer notre situation. Avec, voici les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller. Voici les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas se mettre avec cette personne. 2 sur 12 pour attaquer. J'ai fait le calcul, c'est 16%. 16%. Et la vérité, c'est qu'avec 16%, on ne gagne pas une élection. On ne gagne pas une élection avec ça. Mais la volonté de Dieu n'est pas une question de démocratie. Parce qu'en général, on vote pour ce qu'on veut. Mais Dieu n'est pas un politicien. Dieu n'est pas un président, un premier ministre avec un programme et des promesses vaines. Dieu est un Père qui nous aime avec des plans de paix et de bonheur et des promesses certaines. Amen. Dieu est un Père. Et pour ceux qui sont parents, vous savez que vous ne donnez pas forcément ce que vous voulez à vos enfants. Vous leur donnez ce dont ils ont besoin. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Et on le fait pourquoi ? Pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent se développer dans leur plein potentiel. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Et des fois, ces promesses sont liées à des choses qui sont compliquées, qu'on va devoir combattre. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous amener ailleurs. Alors si Dieu t'a dit quelque chose, ne laisse pas les autres diminuer ce que Dieu t'a promis. Ne laisse pas les autres, les gens autour de toi, par leur inconfort face aux décisions que tu vas prendre, diminuer ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, s'il te l'a promis, il va l'accomplir. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais il va le faire. Ne laisse pas les autres, ne laisse pas les 10 te dire « Non, ça ne marchera pas, c'est impossible, c'est trop compliqué. » Si Dieu l'a promis, il va l'accomplir. Nombre 13, 32. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants. » Les descendants d'Anak, qui sont issus des géants, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Que vois-tu ? Que vois-tu sur ta situation ? Que vois-tu sur ta famille ? Que vois-tu pour ton église ? Que vois-tu ? Tous sont d'accord pour dire que c'est un pays d'abondance, avec de belles opportunités, mais la majorité des espions, 10 sur 12, trouvent que le pays est fort et puissant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des géants. Ils ont vu des géants. Et ils commencent à, leur foi commence à se diliter. Ils ont vu des géants qui rendent la conquête impossible. Et j'aimerais vous proposer cette idée que le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Le contraire de la foi n'est pas le doute ou le manque de foi. Le contraire de la foi, c'est la vue. Ce qu'on voit. Parce que souvent, ce qu'on voit vient en contradiction avec ce qu'on croit. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Car nos yeux nous jouent des tours et nous montrent ce qui semble impossible à première vue. 2 Corinthiens 5, c'est 6-7 nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et c'est fou comme on connaît ce verset, on le chante même. Mais quand la réalité arrive, c'est comme si ça frappe. « Ah, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, il se passe ça et il se passe ça. » « Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de vie, toi. » Et je rentre à la maison. « Le Dieu de vie. » Tout à coup, ce chant perd de sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'on le chante durant le temps de célébration, mais quand on est face aux réalités de nos vies, c'est comme si ce chant était en arrière-boutique. Mais Dieu veut nous donner la foi, Dieu veut faire grandir notre foi pour ce qu'il a promis. Et je crois que pour certains, Dieu veut te donner un don de foi ce matin. Un don de foi pour ta situation, un don de foi pour ce que tu vis. Parce que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Le problème à ce moment-là, pour eux, c'est pas tant ce qu'ils voyaient, mais où ils regardaient, où se posait leur regard, vers où dirigeaient-ils leur regard. Ils le mettaient sur les géants et non sur Dieu. Et quand tu commences à mettre ton regard sur les circonstances plutôt que sur le Dieu qui change les circonstances, ta foi commence à s'effondrer. Ta foi commence à s'effondrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Vous connaissez le passage de Pierre où, alors qu'ils sont sur le lac, ils sont dans le bateau, dans la barque, Jésus n'est pas là et Jésus arrive et il marche sur l'eau comme ça. Bon, peut-être pas comme ça tout à fait, mais il marche sur l'eau. Et il le voit, il croit que c'est un fantôme, et à un moment donné, il arrive, il le reconnaît, c'est Jésus. Et Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Et je pense qu'on s'imagine dans nos têtes que ça se passe, que Pierre fait « J'arrive. » Je ne suis pas si sûr que ça. Moi, j'aimerais bien voir les vidéos de ce moment. Parce que je suis sûr que, quand Jésus lui dit « Viens », je suis sûr que, mais ce n'est pas parce qu'il shake, qu'il tremble, qu'il n'a pas la foi. Mais je crois que c'est compliqué à ce moment-là. Il sort et je crois que sa foi est mise à rude épreuve parce que tout ce qu'il voit autour, c'est la tempête, c'est les flots, c'est les vagues. Mais il y va quand même. Il y va quand même. Et à ce moment-là, le problème qui se passe, je crois, n'est pas sa foi. Il n'a pas manqué de foi parce qu'après, on sait qu'il s'enfonce dans l'eau. Et je pense que le problème n'est pas sa foi, le problème à ce moment-là, c'est sa vue. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il regarde Jésus et il voit tout ce qui se passe autour. La foi, c'est pas nier ce qui se passe autour. C'est pas dire, il se passe rien, Non, c'est pas ça. Il le voit très bien, sauf que son regard, son focus est sur Jésus. Mais il voit tout ce qui se passe autour. Il voit bien la pluie, il voit bien les vagues, il voit la tempête, il n'est pas fou. Mais le problème, c'est que sa foi est là. Mais alors qu'il marche, il arrête de regarder à Jésus et les circonstances prennent le dessus. Les circonstances prennent le dessus et poum, il tombe. Et à ce moment-là, le défi, ce qui lui fait perdre sa foi, c'est sa vue. C'est sa vue. Où regardes-tu en ce moment ? Où mets-tu ton regard ? Pour ton travail, pour tes enfants. Où mets-tu ton regard ? Eux, ils l'avaient mis sur les géants et ils commençaient à avoir peur. Mais je crois qu'il y a une clé aussi si on veut remporter des victoires dans nos vies. Parce que Dieu est le Dieu de victoire. Et on l'a chanté ce matin. Et je crois qu'une des clés pour remporter des victoires dans nos vies personnelles, dans nos vies de prière, dans ce que Dieu a pour nous, c'est quand on est, je crois qu'il va falloir arrêter de dire à Dieu combien nos problèmes sont grands. Et commencer à dire à nos problèmes combien Dieu est grand. Parce que souvent ce qui arrive, et moi le premier, je vous le confesse, quand je vis des choses difficiles, je fais « Seigneur, tu vois ce qui se passe, c'est compliqué. » Et Dieu, je suis sûr qu'il nous regarde et il fait « Ouais, mais je sais, oui, je sais bien que c'est compliqué. » Mais c'est comme si alors qu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on vient dans la prière, et comprenez-moi bien, je ne veux pas du tout me moquer de tout ça parce que je suis le premier à le faire. Mais on fait juste ressasser les problèmes, à quel point ils sont grands, à quel point il y a des difficultés, à quel point les géants sont énormes, à quel point la tempête est folle. Et en fait, on fait juste donner du carburant à notre peur, à notre manque de foi. Mais je crois qu'alors qu'on commence à parler à nos problèmes et à dire « Non, tu ne mourras pas parce que mon Dieu est grand, il est puissant, il peut tout. Ben » à ce moment-là, notre foi commence à monter. Quand on commence à chanter des chants de louange, notre foi monte, notre foi grimpe. Dire « Merci Seigneur parce que tu vas me donner la victoire, merci Seigneur parce que tu es avec moi et merci parce que ce problème et ce défi ne m'atteindra pas. » Et je crois qu'on a besoin d'arrêter de dire à Dieu combien nos problèmes sont grands. Parce qu'alors qu'on fait ça, c'est un manque de foi. On est en train de donner plus d'importance au problème qu'à Dieu. Et on regarde le géant plus que Dieu. Mais je crois que Dieu veut nous encourager, nous dire « Non, je suis avec toi, je suis le Dieu qui combat pour toi. » Et si je suis avec toi, nous aurons la victoire. Arrête de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands. Commence à dire à tes problèmes combien Dieu est grand. Quand tu commences à faire ça, il y a une foi qui monte. Déclarer la grandeur de Dieu. La situation et les circonstances n'ont pas changé. Mais pourtant, ton regard a changé. Quand tu commences à chanter, à prier, à déclarer les choses de Dieu sur ta vie. Combien de fois j'ai prié, la situation n'avait pas changé. Mais mon regard, ma perspective avait complètement changé. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça des fois? Et c'est fou. Il n'y a rien qui a changé. Mais ton regard, ta perspective a changé. Ton regard a changé. Ce que tu vois a changé. Et ta vision de Dieu aussi a changé. C'est comme si des fois on prend Dieu juste pour quelqu'un qui nous accompagne. Il ne veut pas juste nous accompagner, il veut intervenir. Il veut faire de grandes choses et il veut faire des miracles. Quand on fait juste regarder les obstacles, le problème c'est qu'on commence à se faire des films. À voir tout ce qui pourrait mal aller. Et il y en a, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis Steven Spielberg dans ma tête. Je vois tout ce qui pourrait mal arriver. Tout. Ouais, mais si je fais ça, il va y arriver ça, puis ça va être compliqué. La plupart du temps d'ailleurs, ça n'arrive pas. Mais on se fait des films, il y en a, on est des professionnels. Et on commence à blâmer les autres. On commence à blâmer Dieu même. Et on en vient même à croire que le passé est meilleur quand on vit des choses difficiles. Et que la promesse de Dieu met du temps à s'accomplir. Nombre 14. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Ça, quand un leader, quand les choses vont mal, quand les choses vont bien, tout va bien. Quand les choses vont mal, c'est ta faute. C'est ta faute, Matthieu. C'est facile, c'est tellement facile. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. On aime ça, changer de chef. On aime ça, hein, c'est incroyable. Moïse et Aaron, à ce moment-là, tombent visage contre terre devant toute l'assemblée. Et ils n'y croient pas, ils sont déçus. Et Josué et Caleb déchirent leurs vêtements. Ils sont détruits, ils disent, mais non, mais pourquoi le peuple ne comprend rien? C'est pas possible. C'est pas possible. Ils déchirent leurs vêtements de tristesse, de frustration et même de honte devant Dieu, de dire, pourquoi le peuple ne suit pas? Et là, pour moi, c'est comme si on arrive à, on imagine, à la mi-temps de la Coupe du Monde, on joue contre l'Argentine, on perd 2-0, ce scénario est totalement fictif. On perd 2-0, et là, tout le monde se dit, ah, c'est fini, c'est mort, on n'y arrivera pas. Et là, à ce moment-là, Josué sort le discours de la mi-temps. Celui qui va booster les hommes. Celui qui va faire qu'on va se ressaisir et remporter la victoire. Est-ce que, Église de l'Épi, vous êtes avec moi ce matin? Je vais avoir besoin de vous. Et là, il sort son discours. Et il y va. Josué et Caleb dirent à toute l'assemblée israélite, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. » Oh là 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 là. Oh là là, que s'est-il passé? C'est ce qu'on appelle, en bon français, un flop. On le refait? Allez, on le refait. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, il est excellent. » Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ouais. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Ouais. Vous y croyez à moitié quand même, hein? Et après tout ça, le peuple fut comme un seul homme derrière Josué et Caleb. Ils s'emparèrent du pays promis. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Bonne journée. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Nombre 14. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Si toi aussi tu veux faire partie du leadership de l'église, allez voir Matthieu et RP à la fin. C'est fou quand même. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Et je crois que des fois, par notre manque de foi, on méprise Dieu. Sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Mais on méprise Dieu. Dans qui il est, dans sa grandeur. Et la suite est terrible. Nombre 14, 23. Voici ce que dit Dieu. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Et je crois que la façon dont tu vois les choses aujourd'hui va déterminer ce que tu vas voir demain. Ou pas. La façon dont tu vois les choses aujourd'hui va déterminer ce que tu verras demain. Ou pas. Parce que eux n'ont rien vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que on nous dit quelque chose de particulier à propos de Caleb. Nombre 14, 24. « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. » Et c'est fou comment on dit « Amen » à ça. On aime ça, c'est bon. Mais que nous dit la parole de Dieu ? Caleb était animé de notre esprit. Caleb était animé d'un esprit différent. Caleb et Josué avaient foi en Dieu et voyaient ce que lui seul pouvait faire. Renverser les impossibilités et leur donner la victoire. Et dans ce passage, quand on parle d'un esprit différent, on ne parle pas de Saint-Esprit. On parle d'une mentalité différente. Caleb était animé d'un esprit différent, d'une mentalité différente, d'une façon de voir les choses différente. Là où le reste du peuple était pessimiste, Caleb voyait le verre à moitié plein. Je dirais même qu'il voyait plein. Parce que quand on est rempli de l'esprit, ça déborde. Caleb et Josué voyaient la grandeur des fruits et des opportunités. Ils ne voyaient pas les obstacles. Il avait un esprit différent de ceux qui l'entouraient. Il croyait qu'avec l'aide de Dieu, il pouvait vaincre tous les géants sur sa route, même si les autres en doutaient. Ce n'est pas parce que les autres doutent de ce que Dieu peut faire dans nos vies que nous, on est appelés à douter. Bien au contraire. Il avait une vision que ni l'âge ni les circonstances ne pouvaient altérer. En fait, Caleb était un homme de grit. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme anglais. En français, il avait la gnaque. Il ne lâchait pas. Je ne sais pas si vous savez, mais Caleb, ça veut dire chien. Et pour moi, Caleb, c'est un pitbull accroché à une branche. Arr, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Les promesses de Dieu sont vraies. Et je m'accrocherai. Vous savez, le pitbull qui est accroché à la branche, et il y a un combat entre la branche et le pitbull. Et le pitbull se balance comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça. La seule chose qu'il va lâcher, c'est la branche, c'est pas le chien. Et je crois que Caleb était un homme comme ça. Un homme de niaque, de persévérance. Un homme dont la ténacité et la niaque étaient incomparables. Il avait quelque chose de toujours aussi rare, du courage et de la persévérance malgré les obstacles. De pas lâcher. Dans une société sans engagement, où tu dis, non, t'engages pas, attends. Lui, il ne lâchait pas. Il s'accrochait à la parole de Dieu. Il s'accrochait aux promesses de Dieu. Il s'accrochait à son Dieu. Il s'accrochait à ce en quoi il croyait. Comme un pitbull accroché à une branche. Il y en a, vous allez peut-être juste retenir ça ce matin. Avec ma face comme ça, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence. Dieu n'est pas impressionné par ton talent. Mais Dieu est impressionné par notre caractère. Soyons des Caleb, animés de notre esprit. Et j'aime cette pensée que la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. La foi ne rend pas les choses faciles. En fait, même je trouve que des fois, la foi nous rend les choses plus difficiles. C'est un qui sont d'accord avec ça? C'est compliqué de se battre pour nos valeurs, pour ce en quoi on croit, dire aux gens que Dieu est avec nous. Oui, on croit à quelqu'un, et tu le vois? Non, je ne le vois pas. Ouais. Il est avec toi? Oui, il est avec moi. Parce que quand on a la foi, on a la foi en sa parole. Et sa parole nous pousse dans nos retranchements, parce que Dieu nous demande des choses qui sont difficiles à avoir. Et sans la foi, c'est compliqué de les accomplir. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Psaume 60, verset 12. « Avec Dieu, nous ferons nos exploits, il écrasera nos ennemis. » Et tout le monde fait « Ouais !» Mais si on parle d'exploit, ça veut dire qu'à la base, c'est impossible. Vous êtes avec moi? C'est impossible. Nous, on reste sur « Il écrasera nos ennemis !» Il, mais c'est nous ferons des exploits. Dieu avec nous, parce que Dieu fait équipe avec nous. Dieu fait équipe avec toi. Et s'il y a des exploits dans ta vie, c'est parce qu'il y a des situations impossibles. Il y a des situations qui peuvent ne pas arriver, ne pas se concrétiser, mais Dieu peut le faire. Tout le monde veut vivre des miracles, mais personne ne veut se mettre dans une position pour vivre le miracle. Tout le monde trouve la manne incroyable, mais personne ne veut avoir des agios sur ses comptes en banque et être dans la galère pour vivre la provision de Dieu. Vous me suivez? Tout le monde veut vivre des miracles, mais personne ne veut être dans cette situation-là. Personne ne veut quitter son confort, aussi spartiate soit-il. Caleb voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Alors quand tu vois ce qui semble impossible devant toi, ton couple, tes enfants, tes projets même, ton appel pour le ministère, ferme les yeux. Dis-moi, mon message, c'est que ferme les yeux. Ferme les yeux et ouvre les yeux de la foi. Parce que Dieu veut te montrer ce que lui peut rendre possible. Et des fois, on a juste besoin de fermer les yeux. Pas pour nier ce qui se passe autour, mais juste pour nous reconcentrer sur Jésus. Ferme tes yeux pour voir. L'idée n'est pas de nier ce qui se passe, mais de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous. Ou des fois, ce qui ne passe pas. Ce qui ne se passe pas. Vous savez, ces moments où on prie, puis on a l'impression que rien ne se passe. Et des fois, on en vient même à se poser la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Allô? Votre appel est important pour nous. Vous. Ferme tes yeux. Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors à partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Arrête de regarder avec tes propres yeux. Et regarde les choses autour de toi avec les yeux de Dieu. Les yeux de la foi. Je dirais, mets ton casque de réalité spirituelle. Vous connaissez ça? RP, tu connais? Mets ton casque de réalité spirituelle. Et vois ce que Dieu te montre. Commence à voir. Bien sûr, ça n'a pas lieu dans le monde visible, mais pourtant Dieu te montre des choses. Mets ton casque de réalité spirituelle. Les yeux de la foi. Et quand tu le mets, que vois-tu? Ce casque de réalité spirituelle, il arrive quand on va dans la présence de Dieu et qu'on prie, quand on est avec lui. Quand tu le fais, tu vois que c'est possible, que Dieu peut tout changer, que Dieu peut tout transformer et dire comme Caleb, si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que le prix promis était le but ultime de leur voyage. Ils s'en allaient pour ça. D'ailleurs, dans le pays promis, il y a le mot pays, je sais, mais l'autre. Promis, ça veut dire que c'est une promesse. En fait, c'est une promesse qu'ils ont. Dieu leur avait promis avant même que le peuple ne soit délivré. Dieu avait fait cette promesse. Alors que Dieu rencontre Moïse sur le mont Horeb et qu'il y a une révélation de Dieu à Moïse dans un buisson ardent, dans un buisson en flammes. Voici ce qu'il lui dit, Exode 3:7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. J'aimerais te dire que Dieu voit ta souffrance. Dieu entend tes cris. Dieu entend tes prières. Et il veut agir. Et ça suit. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et plusieurs fois après ce moment, la promesse sera répétée au peuple d'Israël. Plusieurs fois après ce moment, la promesse sera répétée et sera redonnée au peuple d'Israël encore et encore. Le pays où coule le lait et le miel, cette promesse-là sera répétée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, Dieu n'élude le fait qu'il y aura d'autres peuples à combattre. Dieu n'élude jamais le fait qu'il y aura des complications. Ce n'est pas une promesse bonbon. Vous allez avoir un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a les Jébusiens, les Éviens. Les... Dieu ne ment pas. Il dit la vérité. Et il ne dit pas qu'il y a des peuples qu'il faudra combattre. Moi, la question que je me pose, c'est mais comment ont-ils pu oublier? Comment ont-ils pu oublier cette promesse à tel point qu'ils veulent revenir en Égypte? Comment ont-ils pu oublier cette promesse grandiose? À moins qu'il n'ait pas oublié. Il s'en rappelait, mais il n'y croyait pas vraiment. Et il dira, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Et je crois qu'il y a une très grosse différence entre se rappeler les promesses de Dieu et croire dans les promesses de Dieu. Parce qu'on peut venir à l'église, on peut faire l'insté, apprendre des versets par cœur, et c'est excellent. Mais si on ne les applique pas dans nos vies, à quoi ça sert? On peut connaître les promesses de Dieu. On peut s'en rappeler, mais ne pas y croire. Et Dieu nous fait des promesses, mais le temps passe et on n'y croit pas. On n'y croit plus. Oh, ça se passe entre toi et Dieu, c'est dans ton cœur. Le temps passe et c'est comme si, tranquillement, à cause des vagues du temps, la promesse s'efface. La promesse s'efface. Les circonstances ne sont pas favorables. On se dit qu'on s'est imaginé des choses. Ouais, Dieu m'a dit, ouais, est-ce que Dieu m'a vraiment dit ça? Bon, j'étais dans un temps de louange, tout ça, c'était tellement bon. Et on commence à douter. Et l'ennemi nous parle. Et l'ennemi vient dans nos cœurs et nous dit, sérieusement, tu crois vraiment que ça va arriver? Et là, on se dit, ouais, pas sûr. Je sais pas. Et je crois qu'il se rappelait de la promesse. Je crois qu'il se rappelait de cette promesse. Elle était tellement là, elle était tellement répétée. C'était tellement ce vers quoi ils allaient. Mais ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand tu crois quelque chose, tu te bats pour quelque chose. Tu te bats pour aller au bout. Et la vérité, c'est qu'il faut se battre pour s'emparer des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont rarement passives. Sont très rarement passives. La foi n'est pas seulement de la contemplation. La foi te pousse à l'action. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents de... Non. Mais se faire violence pour croire les promesses de Dieu, pour se battre, pour pas lâcher, pour prier, pour intercéder, pour venir durant le jeûne et prière, 5 soirées d'affilée, et tout le monde dit... Ce sont les violents qui s'emparent. Et ce qui arrive, c'est que je pense que pour certains, ce matin, t'es comme le peuple d'Israël. T'as pas oublié les promesses que Dieu t'a faites. Tu les connais, tu les sais. Mais t'y crois pas. T'y crois plus. Tu viens adorer le Seigneur. Mais Dieu a des promesses pour toi. Et tu les as oubliées. Et s'il y en a, vous êtes là pour la première fois ici, j'aimerais te dire que Dieu a des promesses pour toi. La promesse que si tu lui donnes ta vie, il sera avec toi tous les jours. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ça, c'est des promesses certaines. Mais certains, t'as juste oublié les promesses. Tu les as laissées aller. Je pense certains que tu les as enfouies, ces promesses, parce qu'il te semblait que c'était impossible. Et t'as dit, ah, ça fait trop longtemps, je vais juste les mettre de côté. T'as pensé qu'elles ne pourraient pas se réaliser, mais Dieu ne se repent pas des promesses. Et je suis venu ici te dire ce matin que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Ma promesse, elle tient toujours. Ma promesse tient toujours. Parce qu'il est juste, il est bon, il est fidèle, et il est capable de les accomplir. Amen. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Alors rappelle-toi ses promesses pour ta vie. Mais crois qu'il va les accomplir aussi. C'est ça une foi vivante, c'est ça une foi vibrante. C'est ça qui fait que la foi est excitante, que la vie avec Dieu est juste incroyable. Sinon on fait juste passer du temps ensemble. Et c'est bon. Mais Dieu a plus pour nous. Certains dans la Bible disent « il faut le voir pour le croire ». Vous connaissez ? Il faut le voir pour le croire. Il faut venir à l'épi pour le croire, c'est incroyable. Mais avec la foi c'est le contraire. Il faut le croire pour le voir. Il faut le croire pour le voir. Il faut qu'on puisse croire pour voir les promesses que Dieu a pour nous. D'ailleurs, Hébreux 11.1 nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » C'est réel, mais on ne le voit pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un changement que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des choses évoluer que Dieu n'est pas en train d'agir en arrière-scène. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. Il faut le croire pour le voir. En fait, le titre de mon message ce matin n'est pas bon. Je vais recommencer du début. On est reparti pour 45 minutes. Le titre de mon message ce matin, c'est « Que crois-tu ?» Que crois-tu ? Que crois-tu ? Parce que ce que tu vas croire va beaucoup déterminer ce que tu vas voir. Et Caleb a cru les promesses de Dieu. Il s'est battu et il les a vues. Il a cru, il s'est battu et il les a vus. Combien veulent voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie ce matin ? Ah, je ne suis pas sûr. Combien veulent voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie ? Dieu a des promesses pour nous, Dieu a des promesses pour toi. Et il veut les accomplir. Est-ce que tu vas croire malgré ce que tu vois ? Est-ce que tu vas lui faire confiance ? Le don de foi. Ma situation est impossible, mais il y a un don de foi pour moi ce matin. Que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. Et si je lui fais confiance, il va l'accomplir. On termine bientôt. Je vais inviter les musiciens à bien vouloir s'avancer. Josué 14:7. J'ai été âgé de 40 ans. C'est Caleb qui parle. J'ai été âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Au verset 10, il dit « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. » Comme il l'a dit il y a 45 ans, que l'Éternel a dit cela à Moïse. 45 ans. Tu trouves que ça fait 3 mois que t'attends et tu trouves ça long? Il a attendu durant 45 ans. 45 ans, ça promet. Si on peut juste commencer à jouer au piano. 45 ans. À l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Comme je disais hier, tu n'es pas trop vieux pour servir. Tu n'es pas trop vieux pour que Dieu se serve de toi. Tu n'es pas trop vieux pour que Dieu fasse des choses incroyables dans ta vie. Il y en a, t'es arrivé à un certain âge et t'as dit, off, j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps. On va laisser les petits jeunes y aller. Non, non. T'as une place à prendre. T'as une place à prendre dans ton église. Et surtout, Dieu veut prendre la place dans ta vie. Il veut te faire vivre les promesses qu'il a encore pour toi. Dieu a encore des promesses pour toi. Il continue, il dit, « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. » Et Josué 14:14 est incroyable. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Où mets-tu ton regard? Sur les défis ou sur Dieu? Sur ses promesses ou sur les circonstances? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout changer? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout transformer? Il y en a, tu pries pour tes enfants depuis des années. Et tu as l'impression que rien ne se passe. Mais Dieu agit même si tu ne le vois pas. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout changer? Dieu veut te donner un esprit différent. Un esprit comme Caleb, qui voit les possibilités, qui voit ce que lui peut faire, ce que lui peut changer, ce que lui peut transformer. Il est sans limite. Alors est-ce qu'on pourrait se lever ce matin? Comme un geste de foi. Seigneur, je me lève à ma place. Je crois en toi. Je crois en tes promesses. Je crois en ce que tu m'as dit. Je crois en ce que ta parole dit. Et je vous invite à lire la parole de Dieu, à lire votre Bible, parce qu'elle est remplie de promesses pour vous. Et des fois, c'est pas tant qu'on se rappelle pas des promesses de Dieu, c'est qu'on ne les connaît même pas. Mais Dieu a tellement de promesses pour toi. Il a des promesses, puis il veut les accomplir. Ça sera pas toujours facile. Il faudra combattre. Mais Dieu veut te donner un don de foi. S'il y en a qui sont ici ce matin et qui disent « Moi, j'ai besoin d'un don de foi pour une situation en particulier. » Si c'est toi ce matin, j'aimerais juste t'inviter à lever ta main, j'aimerais prier pour toi. Alors qu'on ferme les yeux. Yes, je vois des mains partout qui se lèvent. Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il est Dieu, le Dieu de victoire. Il est le Dieu des circonstances. Il change les temps, les circonstances. Même si ce que tu vois te semble affolant, même si la tempête est partout, même si tu vois la pluie, les vagues, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Mais fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu crois. Beaucoup sont passés à côté du pays promis parce qu'ils se sont arrêtés sur ce qu'ils voyaient. Dieu t'appelle et te dit ce matin, arrête de regarder autour de toi, mets juste ton regard sur moi, crois en moi. Parce qu'alors que tu crois, tu verras. Seigneur Jésus, je vais te prier pour nous ce matin. Je m'inclus dans la prière, Seigneur. Le message, il est pour moi aussi. Seigneur, je prie pour nous, Seigneur. Nous voulons être un peuple qui se rappelle tes promesses, mais qui croit en tes promesses. Nous voulons être un peuple, Seigneur, qui s'attache à tes promesses, qui s'attache à toi, pas aux circonstances, mais à qui tu es. Tu es le Dieu des promesses, tu es le Dieu des miracles. Et comme Caleb, nous voulons être animés dans notre esprit, d'un esprit différent. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous te demandons pardon des fois pour notre incrédulité sur certaines situations, des fois où on a lâché. Tu nous avais dit quelque chose, tu nous l'avais promis, mais on l'a tassé, on l'a mis de côté. Seigneur, tu nous dis ce matin, ma promesse tient toujours. Ma promesse est toujours là. Elle est pour toi, elle est pour tes enfants. Alors ce matin, qu'on puisse élever le nom de Jésus. À notre place, qu'on puisse élever la voix et dire, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, viens augmenter ma foi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un don de foi. Seigneur, je te prie pour le don de foi ce matin. Pour des situations qui semblent impossibles, qui semblent totalement finies. Mais toi, tu es le Dieu qui change tout. Là où il y a la mort, tu mets la vie. Là où il y a les ténèbres, tu mets la lumière. Et tu déclares, Seigneur, ma promesse va s'accomplir dans ta vie. Seigneur, je te prie pour un don de foi pour des situations qui semblent impossibles. Mais toi, je le sais. Je le sais par ma vie. Tu es le Dieu qui peut tout faire, qui change tout. Seigneur Jésus, je te prie pour nous. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Viens augmenter notre foi. Je te prie pour ton Saint-Esprit. Viens ce matin. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de foi. Viens nous remplir, Seigneur, de ta présence, de qui tu es, Seigneur. Seigneur, nous voulons mettre notre casque de réalité spirituelle et dire, waouh, c'est fou ce que Dieu va faire. Oh, les autres me disent que c'est impossible. Mes amis au travail me trouvent fou. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Je crois en toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la foi que nous avons en toi. Merci pour ton esprit qui nous soutient. Alors que c'est difficile, je te prie pour ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment, qui s'accrochent à toi, mais qui disent, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Seigneur, merci parce que tu es bon. Viens déposer des dons de foi dans les cœurs ce matin. La situation semblait impossible. Et pourtant, tu vas faire l'impossible, car tu es le Dieu des victoires. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour. » Mais dans les paroles de ce chant, on parle d'être ancré dans la foi. Ancré dans la foi. Il y en a peut-être ton bateau à dériver et Dieu t'appelle à revenir, à ancrer ta foi en lui pour aujourd'hui, pour demain et pour les promesses qu'il a pour toi. Est-ce qu'on pourrait chanter ce chant, s'offrir à Dieu ce matin et dire « Seigneur, je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur tes promesses. Je bâtirai ma vie sur ta parole. Je bâtirai ma vie sur ce que tu dis sur ma vie. Pas sur ce que les autres disent, pas sur ce que je vois, mais sur ce que tu dis. Seigneur, je mets mon focus sur toi ce matin. Je me fixe mon regard sur toi. Pas sur les circonstances, mais sur toi. Tu es le Dieu qui me remplit de foi. Tu es le Dieu créateur de la foi. Tu es l'auteur de la foi. Et alors que je regarde à toi, il y a une foi qui monte en moi pour que l'impossible devienne possible. Chantons ce matin, élevons nos voix et déclarons la foi que nous avons en notre Dieu ce matin. Je bâtirai ma vie. Alléluia.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, j'ancre. Je bâtirai ma vie.
je bâtirai.
Cette prière de foi ensemble pour la semaine qui arrive. Parce qu'un don de foi, ce n'est pas l'histoire d'un créneau un dimanche matin, c'est l'accompagnement du Seigneur avec nous pendant toute la semaine. Seigneur, tu nous as emmenés à nous interroger de ce que l'on voit à ce que l'on croit. Je te prie, Seigneur, alors que nous allons nous bénir les uns les autres, que nous allons être envoyé dans notre vie, dans notre quotidien. C'est toi qui nous y envoies, Seigneur. Aide-nous à saisir cette perspective que c'est toi qui es en train de nous envoyer, Seigneur. Nous te prions pour tous les rendez-vous qui vont avoir lieu cette semaine. Te prions pour tous les échanges, les interactions, le relationnel qu'il va y avoir. Te prions aussi pour les imprévus que nous ne connaissons pas, mais que tu connais, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à cette promesse qui dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons nous accrocher sur cette promesse où tu nous dis « Personne ne pourra nous arracher de ta main ». Nous voulons aussi nous accrocher dans cette promesse que tu as dit que les choses anciennes sont passées. Voici, tout devient nouveau, Seigneur. Nourris-nous en tant qu'Église de l'Épi pendant cette semaine, en prière, en foi. Seigneur, merci de soutenir aussi toutes les personnes qui vont bénéficier du temps d'écouter prière maintenant. Te prions vraiment pour des temps de rendez-vous divins, Seigneur. Seigneur, aide-nous, augmente notre foi. Aide-nous à croire, à te croire, à te faire confiance. Merci de bénir chaque participant à la vie de l'Église de l'Épi. Que cette semaine soit l'occasion de te voir à l'œuvre. Merci, Seigneur, pour cette matinée qui nous ressource pour que nous soyons nous-mêmes demain des ressources pour d'autres. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Cette célébration arrive à son terme. Simplement inviter les personnes qui sont impactées d'une manière ou d'une autre à vous rendre à l'espace Écoute et Prière de suite après cette célébration. Et donc demander aux personnes de cette rangée tout à ma gauche de bien vouloir commencer à pouvoir se rendre dans le hall et échanger. Que le Seigneur vous bénisse. On vous souhaite une bonne semaine. Merci Stéphane. Merci à vous qui étiez en ligne avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne semaine à chacune et à chacun.